Chapitre 4 La Tour 1 Eddie était dans un fauteuil et le fauteuil se trouvait dans une petite pièce peinte en blanc. C'était l'unique fauteuil de la pièce et la pièce était bondée. La pièce était enfumée. Eddie était en slip. Eddie avait envie d'une cigarette. Les 7 autres occupants de la petite pièce blanche étaient habillés. Debout autour de lui, ils l'encerclaient. 4 fumaient. Eddie avait envie de se trémousser et de guincher, de bondir et de se tordre. Eddie était assis, tranquille, détendu, promenant un regard amusé, curieux, sur les types qui l'entouraient, comme si le besoin de se shooter n'était pas en train de le rendre dingue, comme si la simple claustrophobie n'aboutissait pas au même résultat. Et tout ça, parce que l'autre était dans sa tête. Cet autre qui l'avait terrifié au début, dont la présence était maintenant pour lui une bonne raison de remercier Dieu. L'autre pouvait être malade, mourant même. Il conservait en lui assez d'acier pour en concéder une partie, armé à un pauvre junkie paniqué de 21 printemps. « Cette marque rouge que tu as sur la poitrine, c'est vachement intéressant, » dit l'un des douaniers. Une cigarette lui pendait au coin des lèvres, le paquet dépassait de sa poche de chemise. Eddie se voyait y prélever 5 ou 6 cigarettes, les aligner dans sa bouche, les allumer, s'expédier une énorme bouffée au fond des poumons, se sentir tout de suite mieux. À croire que tu avais là quelque chose de fixé par du sparadrap et que, brusquement, tu t'es dit que ça serait peut-être bien de s'en débarrasser. « Je vous l'ai déjà dit, j'ai chopé ça aux Bahamas, une allergie ou je ne sais quoi. Combien de fois faut-il que je vous le répète ? Je fais ce que je peux pour garder mon sens de l'humour, mais ça devient de plus en plus dur à chaque instant. »« Tu peux te le foutre au cul, ton sens de l'humour !» cracha un autre, sur un ton qu'Eddie reconnut. Celui qu'il avait quand il passait la moitié de la nuit à attendre un dealer qui ne venait pas, parce que ces types-là étaient aussi accros. Parce que ces types-là aussi étaient accros. À la seule différence qu'il l'était à des mecs comme lui et Henry. « Est-ce que t'as au bide, Eddie ? Tu l'as récolté où ?» Un troisième désignait l'endroit où il s'était blessé avec le couteau. Le sang ne coulait plus, mais la perle violet foncé qui obstruait la plaie semblait n'attendre qu'un prétexte pour crever. Eddie montra la zone irritée. « Ça me démange, » expliqua-t-il sans avoir besoin de mentir. « Et quand je me suis endormi dans l'avion, vous pouvez demander à l'hôtesse si vous ne me croyez pas. »« Pourquoi est-ce qu'on ne te croirait pas, Eddie ?»« Je sais pas, moi. Vous en rencontrez souvent des gros trafiquants qui arrivent à vous payer pendant leur vol retour ?» Il s'interrompit, leur accorda une seconde pour méditer sa remarque, puis tendit ses mains aux ongles rongés, certains même dangereusement déchiquetés. Les préliminaires du manque leur étaient fatales, avait-il constaté. « Bon. » « Vu l'état de mes ongles, je n'avais pas intérêt à me gratter et j'ai réussi à me retenir. Sauf quand je me suis endormi, apparemment. Ou quand t'as piqué du nez. Ça pourrait bien être une marque de seringue. » Le type y allait au flanc, savait comme Eddie que c'était impossible. Si près du plexus solaire, ce tableau de bord du système nerveux, un fixe avait toutes les chances d'être le dernier. « Faut pas pousser. Tout à l'heure, vous m'avez regardé les pupilles de si près que j'ai cru que vous cherchiez à m'hypnotiser. Vous avez bien vu que j'étais pas dans les vapes. » Le troisième douanier prit un air écœuré. « Pour un petit gars sans histoire, t'en connais un sacré rayon sur la dope. Ce qui ne vient pas de 2 flics à Miami, je l'ai trouvé dans le Reader's Digest. Maintenant, dites-moi ce qu'il en est. Combien de prises allons-nous devoir tourner de la même scène ?» Un quatrième brandit un sachet à spécimens. Des fibres étaient visibles au travers du plastique. On attend la confirmation du labo, mais on est à peu près sûr de ce que c'est. Des fragments de sparadrap. À la vitesse où je suis parti de l'hôtel, je n'ai pas eu le temps de me doucher, répéta Eddie pour la énième fois. J'ai pris un transat au bord de la piscine, histoire de m'exposer un peu au soleil, des fois que ça serait bon pour mes rougeurs, pour cette allergie que j'avais chopée. Je me suis endormi. En fait, j'ai même eu de la chance d'attraper mon avion. Il m'a fait de courir comme un dingue. Il y avait du vent. Est-ce que c'est le genre de merde qui a pu se coller sur moi ? Un doigt passa sur la pliure de son coude. Et là, Ce sont pas des traces de shooteuse ? Il balaya la main. Des piqûres de moustique, je vous l'ai dit. Presque cicatrisées en plus. Ça crève les yeux, non ? Ça crevait effectivement les yeux. Les marques n'étaient pas toutes jeunes. Voilà plus d'un mois qu'il décrochait de la poussette. Henry n'aurait pas pu, mais c'était en partie pour ça que c'était Eddie, qu'il avait fallu que ce fût lui. Dans l'absolue nécessité d'un fixe, il se piquait non au bras, mais en haut de la cuisse gauche sur la face interne, là où reposait son testicule. Comme il l'avait fait l'autre nuit, quand Machin Jaune lui avait finalement apporté quelque chose de consommable. La plupart du temps, il sniffait, ce dont Henry ne pouvait plus désormais se contenter. Eddie en retirait des sentiments qu'il avait du mal à définir. Un mélange de fierté et de honte. À part ça, s'ils allaient l'inspecter sous les couilles, ils risquaient d'avoir de sérieux problèmes, et plus encore s'il lui faisait une prise de sang. Mais c'était un pas qu'il ne saurait franchir sans un semblant de preuve. Et justement, il n'en avait pas l'ombre d'une. Il savait tout sans rien pouvoir démontrer. « Toute la différence entre ce qu'il y a et ce qu'on veut », aurait dit sa mère. « Des piqûres de moustiques. »« Oui. » Et la bande rouge, une réaction allergique. « Oui, je l'avais déjà en arrivant aux Bahamas, mais pas à ce point. » « Il l'avait déjà en arrivant là-bas », répercuta l'indi-type à son voisin qui n'avait pas entendu. « Ah bon ?» fit l'autre. « T'y crois ?» « Évidemment. »« Tu crois au Père Noël ?»« Évidemment. »« J'ai même une photo de lui avec moi sur ses genoux quand j'étais gosse. » Il se pencha vers Eddie. « T'aurais pas une photo de cette fameuse plaque rouge datant d'avant ton voyage, Eddie ?» Pas de réponse. « Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi ne pas demander un examen sanguin ?» Retour au premier, à celui qui avait la cigarette au bec. Elle en était presque au filtre. Eddie eut soudain la rage au ventre, une rage noire. Il se tendit à l'écoute de sa voix intérieure. « Ok !» fut la réponse instantanée dans laquelle il sentit plus qu'un accord, une sorte de feu vert. Elle lui fit la même impression que lorsque Henry le serrait dans ses bras, lui ébouriffait les cheveux et lui disait, avec une bourrade sur l'épaule, « Du bon boulot, gamin !» « Faut pas que t'en aies les chevilles qui enflent, mais tu t'es débrouillé comme un chef. »« Je suis clean, et vous le savez. » Il se leva d'un bond, si brusquement qu'ils reculèrent, et riva les yeux sur le plus proche fumeur. « Toi, petit gars, autant que tu sois prévenu, si tu ne me retires pas cette clope de dessous le nez, je te la fais bouffer. » Le gars en question se fit effectivement petit. « Bon, je suppose que d'ores et déjà, vous avez vidé la cuve à merde de l'avion. En tout cas, c'est pas le temps qui vous a manqué. Et vous avez bien sûr passé mes affaires au peigne fin. Puis je me suis penché pour laisser l'un d'entre vous m'introduire dans le cul le plus long doigt du monde. Putain, si on parle de toucher rectal pour un examen de la prostate, là, c'est un tringlage en règle. J'avais peur de baisser les yeux, je me disais que j'allais voir un ongle me sortir par le trou de pine. » Il promena ses yeux, il promena sur eux un regard noir. Je récapitule. Vous m'avez exploré les tripes, vous avez fouillé mes bagages, et je suis là, dans ce fauteuil, en slip, avec vous autres qui me soufflez votre fumée en pleine poire. Maintenant, si c'est un petit examen sanguin qui vous plairait, dac, amenez donc un mec pour s'en occuper. Murmure, regard échangé, surprise, malaise. « Mais si vous voulez que ce soit fait sans requête du tribunal, » enchaîna Eddie, « votre type a intérêt à se munir de seringues et de fioles en quantité suffisante parce que je ne vais pas être le seul à donner mon sang. Je veux que ça se passe en présence d'un officier fédéral, qu'on fasse un prélèvement sur chacun d'entre vous, que vos noms et matricules soient portés sur chaque flacon et qu'on les confie à la garde de l'officier. » Et quel que soit le type d'examen pratiqué sur mon sang pour y déceler des traces de cocaïne, d'héroïne, d'amphète, d'herbe ou de je ne sais quoi, j'exige que le vôtre soit soumis au même réactif et que les résultats soient communiqués à mon avocat. « Allons donc ! Ton avocat !» clama l'un d'eux. « Tôt ou tard, faut toujours que ça vienne sur le tapis avec vous autres, bande d'enfoirés. Vous allez avoir des nouvelles de mon avocat. Je vais vous coller mon avocat au cul. Merde, ça me fait gerber d'entendre ça.
En fait, il se trouve que j'ai pas d'avocat attitré,
dit Eddie. C'était la vérité. Je n'avais jamais pensé en avoir besoin un jour. Cela dit, vous venez de me faire changer d'avis. Si vous ne trouvez rien, c'est qu'il n'y a rien à trouver. Mais on va pas s'arrêter à ce genre de détails. Vous voulez m'en faire baver? Parfait. Je vais en baver. Mais pas tout seul. Vous en baverez autant que moi. Il y eut un silence oppressé, à couper au couteau. J'aimerais que vous ôtiez de nouveau votre slip, monsieur Dean, fit l'un d'eux, plus âgé que les autres, celui qui semblait être leur chef. Eddie se demanda si, peut-être, seulement peut-être, ce type n'avait pas fini par comprendre où chercher des marques d'aiguille plus récentes. Jusqu'à présent, il s'était borné à lui inspecter les bras, les épaules, les jambes, certain qu'ils étaient de tenir leur gibier. « J'en ai ras-le-bol d'enlever ceci, d'enlever cela et de me faire traîner dans la merde, » dit Eddie. « Ou vous appelez quelqu'un pour nous faire ces prises de sang à la chaîne, ou je me tire. Choisissez !» Silence de nouveau, tout aussi pénible. Et quand ils commencèrent à se regarder, Eddie sut qu'il avait gagné.
« Qu'on a gagné !» rectifia-t-il. « Comment tu t'appelles, camarade ?»«
Rallant. Et toi, c'est Eddie.
Eddie Dean. T'as des oreilles pour entendre ?»«
Oui.
Et des yeux pour voir. »
« Rendez-lui ses fringues !» fit le doyen du groupe, dégoûté. Puis s'adressant à Eddie, « J'ignore ce que vous transportiez et comment vous avez fait pour vous en débarrasser, mais on finira bien par le découvrir. Je tiens à ce que vous le sachiez. » Il l'inspecta de la tête aux pieds. « Vous êtes là, devant moi, presque avec le sourire. C'est pas tant ce que vous racontez qui donne envie de vomir. »
C'est ce que vous êtes.
Je vous donne envie de vomir.
Exactement. C'est le bouquet,
rétorqua Eddie. Je suis comme un con dans cette espèce de placard, quasiment à poil, avec sept types armés qui m'entourent, et c'est moi qui vous donne envie de vomir? Ah, ça va pas, mec! Faut vous soigner! Il fit un pas vers le vieux type qui commença par ne pas céder un pouce de terrain, puis vit quelque chose dans les yeux d'Eddie. Des yeux bizarres, tantôt noisettes, tantôt bleus. Quelque chose qui le fit reculer malgré lui.
« Je suis pas un trafiquant !»
hurla Eddie.
« Arrêtez votre cirque ! Foutez-moi la paix !»
Silence encore. Puis le chef pivota sur ses talons et beugla.
« Vous êtes sourd ou quoi ? Rendez-lui ses fringues !»
Et voilà. 2.
Vous demandez si on est suivi ? Fit le taxi avec de l'amusement dans la voix.
Eddie se retourna.
Pourquoi vous me dites ça ? Parce que vous n'arrêtez pas de regarder derrière.
Non, j'étais à 100 lieues d'y penser, répondit Eddie sans avoir le moins du monde à mentir. Son premier coup d'œil par la vitre arrière lui avait permis de repérer les filatures. Car il y en avait plus d'une, et s'il continuait de regarder, ce n'était pas pour avoir confirmation de leur présence. Des échappés d'un hospice pour attarder manteau auraient dû se donner du mal pour perdre le taxi d'Eddie, par cet après-midi de fin mai. Le trafic était particulièrement fluide sur la voie express de Long Island.
« Je prépare une thèse sur les structures de la circulation routière. »
Dans certains milieux, une si bizarre réponse aurait provoqué un déluge de questions, mais les chauffeurs de taxi new-yorkais n'étaient pas du genre à en poser. Ils préféraient émettre des affirmations, le plus souvent péremptoires, lesquelles s'ouvraient en général sur l'expression « Steville », comme s'il s'agissait d'un prélude à un sermon. Ce que c'était d'ailleurs pour la plupart. Le chauffeur remplaça donc sa question par «
Parce que si vous aviez pensé que nous étions suivis, j'aurais pu vous dire que non. Croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir. Seigneur, Staville, si je devais compter le nombre de filatures que j'y ai faites, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de gens montent en me lançant « Suivez cette voiture !» Je sais, on ne s'attend pas à entendre ça ailleurs qu'au cinéma. Juste. Mais comme on dit, l'art copie la vie et la vie copie l'art. Ça arrive pour de vrai. Quant à se débarrasser d'un type qui vous suit, rien de plus simple du moment qu'on sait où et comment le rouler. Vous, Eddie baissa le volume, ramenant sa perception de la voix du chauffeur à celle d'un simple fond sonore, n'écoutant ce bavardage, au demeurant très drôle, que pour être à même de hocher la tête aux bons endroits. L'un des véhicules qui leur filait le train était une conduite intérieure bleu nuit. Les douanes, présumait Eddie. L'autre, une fourgonnette, affichait en grosses lettres sa raison sociale « Pizza Ginelli », illustrée également d'une pizza dessinée, à ceci près que la dite pizza était la bouille d'un gamin tout sourire, que ce gamin se léchait les babines et que sa délectation s'exprimait au bas de l'image dans ce slogan « Miam miam, quelle bonne pizza !» À ceci près encore qu'un jeune graffeur, armé d'une bombe et d'un sens de l'humour au ras des pâquerettes, avait biffé pizza pour lui substituer chalate. Ginelli. Eddie n'en connaissait qu'un, le patron d'un restaurant à l'enseigne des quatre pères. La restauration rapide n'était pour lui qu'un à côté, une astuce destinée à équilibrer les comptes. Ginelli et Balazar. L'un n'allait pas sans l'autre, comme les hot-dogs à la moutarde. Il avait été prévu qu'une limousine attendît Eddie devant l'aéroport, une limousine dont le chauffeur l'aurait, en un rien de temps, conduit au quartier général de Balazar, un bar au cœur de Manhattan. Mais le plan initial n'avait évidemment pas inclus 2 heures dans une petite pièce au mur blanc, 2 heures sous un feu roulant de questions assénées par un groupe de douaniers pendant que leurs collègues vidangeaient les cuves du vol 901 pour en passer le contenu au peigne fin dans l'espoir d'y trouver le gros paquet dont ils soupçonnaient l'existence. Ce gros paquet impossible à évacuer, impossible à dissoudre. Il allait par conséquent sans dire que 2 heures plus tard, Eddie n'avait pas vu la limousine. Le chauffeur avait vraisemblablement reçu des instructions précises. Si, un quart d'heure après la sortie des autres passagers, le passeur n'était toujours pas là, il filait vite fait. Sans doute n'avait-il pas téléphoné de la voiture, équipée probablement d'une CB, donc susceptible d'être sur écoute. En 2 heures, toutefois, Balazar avait eu le temps de se renseigner, d'apprendre qu'Eddie avait foutu la merde et de parer aux éclaboussures. Balazar pouvait avoir reconnu l'acier en Eddie. Ça ne changeait rien au fait qu'il s'agissait d'un junkie, et il n'était pas question de se fier à un junkie. Il en résultait la possibilité que le camion les rejoignît, que sa vitre s'abaissa pour laisser dépasser la gueule d'une arme automatique, et que le dos du chauffeur de taxi se transforma en quelque chose approchant de la râpe à fromage ensanglantée. Toute chose qui aurait certainement inquiété Eddie si la douane l'avait retenu 4 heures au lieu de 2, et plus encore si ça avait été 6 heures. Mais 2. Sur si peu de temps, Balazar allait sans doute admettre qu'il ait pu tenir sa langue. Il allait simplement lui demander des nouvelles de sa marchandise. La vraie raison pour laquelle Eddie ne cessait de jeter des coups d'œil en arrière, c'était la porte. Elle le fascinait. Quand les types des douanes l'avaient à demi porté, à demi traîné jusqu'au bas des marches vers les bureaux de l'aéroport, il avait jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et il l'avait vu, là, aussi réel qu'invraisemblable, d'une existence incontestable, flottant à environ 1 mètre derrière lui. Il y avait vu les vagues s'écraser sur la grève et le ciel coiffant ce paysage s'assombrir. Elle était comme dans ces images où il faut chercher une forme fondue dans le feuillage, les nuages ou les plis d'un vêtement. Tant qu'on ne l'a pas trouvée, elle reste invisible. Mais une fois repérée, aussi fort que l'on essaie, il devient impossible de ne plus la voir. Elle n'en avait pas moins disparu à 2 reprises,
quand le pistolet roux l'avait refranchi sans lui. Expérience effrayante. Eddie s'était senti comme un gosse dont la veilleuse venait de s'éteindre la première fois en plein interrogatoire.
« Il faut que je m'en aille. »
La voix de Roland avait tranché net au beau milieu d'une question qu'ils étaient en train de poser à Eddie.
« N'aie pas peur, je ne resterai pas longtemps absent. »«
Pourquoi ? Il faut vraiment que vous partiez ?»«
Qu'est-ce qui t'arrive ?» lui avait demandé un de ceux qu'il cuisinait. « T'as l'air paniqué tout d'un coup. »«
Paniqué ? Sûr qu'il l'était, mais ces connards n'auraient rien pu y comprendre. »
Il s'était retourné, imité par les types. Eux n'avaient vu qu'un mur blanc, les dalles d'isolant perforé blanc qui absorbaient les sons. Eddie, lui, avait vu la porte, à 1 mètre comme d'habitude, et désormais serti dans la cloison, voie d'évasion dont lui seul avait conscience. Mais il avait vu autre chose. Des créatures qui sortaient des vagues, du genre de celles qui envahissent l'écran d'un film d'horreur dont les effets sont légèrement plus spéciaux que vous ne l'auriez souhaité, assez pour vous donner la totale illusion du réel, d'un réel qui prenait l'aspect d'un hideux croisement de homards, de scorpions et d'araignées, dont les bruits n'étaient pas moins inquiétants.
« Tu piques ta crise de délirium, Eddie ?» lui avait demandé l'un des types. « Tu vois des bestioles grimper sur les murs ?»
C'était si proche de la vérité qu'il avait failli éclater de rire. Il comprenait pourquoi le pistolero avait dû précipitamment réintégrer son monde. Ici, son esprit ne risquait rien, du moins pour l'heure. Mais là-bas, les monstres montaient vers son corps. Un corps, suspectait Eddie, que Roland devait déplacer au plus vite s'il voulait garder un endroit où retourner. Soudain, dans sa tête, il avait entendu David Lee Roth, le chanteur du groupe Van Halen, braillait.
« Ouais, mec, j'ai plus de corps !»
Et cette fois, son rire avait fusé. Impossible de le retenir.
« Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?»
avait voulu savoir le type qui venait de lui demander s'il voyait des bestioles.
« L'ensemble de la situation, » avait-il répondu. « Et pas drôle dans le sens d'hilarant, seulement dans celui de bizarre. » Je veux dire que si c'était un film, ça serait plutôt du Fellini que du Woody Allen.
Ça ira, lui avait demandé le pistolero.
Ouais, un pec, grouillé.
Comment?
Dépêchez-vous de faire ce que vous avez à faire.
Ah oui, d'accord. Je ne serai pas long.
Brusquement, l'autre n'avait plus été là. Il s'était purement et simplement évanoui. Telle une fumée si ténue que le moindre souffle d'air eût suffi à la dissiper. Eddie s'était de nouveau retourné, n'avait plus vu qu'un mur blanc percé de trous, ni porte, ni océan, ni monstres bizarroïdes, mi-insectes et mi-crustacés, et il en avait eu les entrailles qui se nouaient, non par crainte d'avoir été victime d'une hallucination. Malgré tout, la drogue avait bel et bien disparu, preuve amplement suffisante, mais par la seule angoisse de ne plus sentir en lui cet homme étrange qui l'aidait de quelque manière et rendait les choses plus faciles.
« Il te plaît, ce mur ?» avait lancé l'un des douaniers. « Tu veux qu'on y accroche un tableau ?»«
Non, » soupire Eddie. « Je veux qu'on me laisse sortir d'ici. »
Dès que tu nous auras dit ce que t'as fait du smack, avait rétorqué du tac au tac un autre. « Ou était-ce de la coke ?»
Et voilà, c'était reparti. « Quand c'est fini, allez nini !» 10 minutes plus tard, 10 minutes étirées à l'extrême, le pistolero s'était tout aussi brusquement réintroduit dans l'esprit d'Eddie qu'il avait senti à bout de force.
« Ça y est, c'est réglé ?»«
Oui, désolé que ça a pris tant de temps. »
Il marqua une pause.
J'ai dû ramper.
Eddie s'était une fois de plus retourné. La porte avait réapparu, mais il s'y inscrivait un décor légèrement différent. Il avait alors compris que, de même qu'elle se déplaçait avec lui dans ce monde, elle accompagnait l'autre dans son propre univers. Concept qui le fit vaguement frémir.
C'était comme d'être relié à cet autre lieu par quelque étrange cordon ombilical. Le corps du pistolero gisait toujours inanimé au premier plan, mais le regard d'Eddie devait à présent couvrir une longue bande de plage avant d'atteindre la guirlande d'algues tressées marquant la limite des hautes eaux et autour de laquelle évoluaient en grondant et bourdonnant les horreurs chitineuses. À chaque vague qui se brisait, elles dressaient leurs pinces, évoquant ces foules électrisées par le fureur que l'on voit dans les vieilles bandes d'actualité tendre le bras en gueulant « Heil Hitler !» comme si leur vie en dépendait, ce qui avait sans doute été le cas, à bien y réfléchir. Le sillage torturé laissé par le pistolero dans sa pénible progression vers des parages plus sûrs était également visible. Puis, sous les yeux d'Eddie, l'un des monstres, vif comme l'éclair, avait levé la pince pour saisir un oiseau qui s'aventurait trop bas. Le malchanceux volatile s'était abattu sur le sable, sectionné en deux moitiés sanglantes qui avaient disparu alors même qu'elles remuaient encore sous un grouillement de carapace. Une unique plume blanche s'était élevée. Une pince l'avait ramené au sol. « Mon Dieu Seigneur !» s'était mentalement exclamé Eddie. « Visez-moi cette bande de morfales. » « Mais pourquoi n'arrêtez-vous pas de vous retourner ?» lui avait demandé celui que son âge et son vouvoiement désignaient comme le chef.
« Parce que de temps à autre, ils me font un antidote, » avait-il répondu.
« À quoi ?»«
À votre tronche de cake. »
3. Quand le chauffeur de taxi l'eut déposé dans la cité au pied de son immeuble, redémarrant aussitôt après l'avoir remercié pour le dollar de pourboire, Eddie resta un moment, le sac de voyage à la main, la veste jetée par-dessus l'épaule et négligemment retenue par un doigt de l'autre main, planté devant ce bâtiment où il partageait un deux pièces avec son frère. Il resta donc à regarder cet immeuble, monolithe, qui avait le style et l'attrait d'une boîte de cacahuètes salées grand modèle. Avec toutes ses fenêtres perçant en bon ordre la façade de briques rouges, l'ensemble avait l'aspect d'un corps prison, et ce spectacle avait un effet aussi déprimant sur Eddie qu'il éveillait au contraire l'ébahissement chez Roland.
« Jamais, même dans mon enfance, je n'ai vu de bâtiment aussi haut !» s'écria ce dernier. « Et il y en a tant !»
« Ouais, approuva Eddie lugubre. On vit là-dedans comme dans une fourmilière. Tu peux trouver ça chouette, Roland, mais crois-moi, ça commence à prendre un sacré coup de vieux. À vue d'œil, même. »
La voiture bleue passa au ralenti devant la cité. La fourgonnette y entra et s'approcha. Eddie se raidit et sentit Roland se raidir en lui. Peut-être avait-il l'intention de descendre, après tout.
« La porte ?» suggéra Roland.
« D'accord, » fit Eddie, prêt à tout, tranquillement toutefois.
« Tu veux qu'on aille de l'autre côté ?»«
Non, pas encore. Il se peut qu'il veuille simplement causer.
Mais tiens-toi prêt. »
Il aurait pu se passer d'ajouter ça, percevant que Roland gardait jusque dans les profondeurs du sommeil des réactions plus rapides qu'il n'en aurait jamais lui-même, fût sur le qui-vive. Le camion pizza à l'emblème du gamin, souriant, obliqua vers le trottoir. Côté passager, la vitre commença de descendre. Avec son ombre qui s'étirait devant lui depuis la pointe de ses tennis, Eddie attendit dans l'entrée de son immeuble, attendit de voir ce qui allait apparaître, un canon ou un visage. 4. La deuxième absence de Roland n'était pas survenue plus de 5 minutes après que les types des douanes eurent finalement déclaré forfait et laissé partir Eddie. Le pistolero avait mangé, mais pas assez. Il avait soif. Par-dessus tout, il lui fallait se soigner. Eddie n'était pas encore en mesure de lui fournir le médicament approprié, tout en suspectant que Roland avait vu juste, que Balazar pouvait,
si Balazar voulait, mais une bonne dose d'aspirine aurait au moins le mérite de faire tomber cette fièvre dont il avait senti l'ardeur quand le pistolero s'était approché de lui pour achever de cisailler le corset de sparadrap. Il traversait le hall de l'aéroport et s'arrêta donc devant la boutique. L'aspirine existe, là d'où tu viens ?
Jamais entendu parler de ça. C'est magie ou médecine ?
Les deux, à mon sens. Eddie entra, acheta un tube d'anacine extra-forte. Il passa ensuite au snack et prit deux doubles hot dogs, des Godzilla dogs comme les appelait Henry, et une grande bouteille de Pepsi. Il noyait les saucisses sous la moutarde et le ketchup quand il se rappela soudain que ce n'était pas lui qui allait les manger. Pour autant qu'il sache, Roland pouvait très bien ne pas aimer la moutarde et le ketchup. Pour autant qu'il sache, il pouvait être végétarien. Pour autant qu'il sache, cette cochonnerie risquait de le tuer.
De toute façon, c'est trop tard, se dit-il. Quand Roland parlait, ou qu'il agissait, Eddie avait la certitude que tout ça était bien réel.
Quand Roland cessait de signaler sa présence, la vertigineuse sensation de ne vivre qu'un rêve, un rêve extraordinairement réaliste qui parcourait son sommeil à bord du Delta 901 à destination de Kennedy Airport, insistait pour refaire surface. Roland lui avait dit pouvoir emporter de la nourriture dans son monde, l'ayant déjà fait, prétendait-il, pendant qu'Eddie dormait. Le jeune homme trouvait cela parfaitement incroyable, mais le pistolero lui soutenait que c'était vrai.
Bon, il va falloir rester prudent, dit Eddie. Ils ont collé deux gars pour nous, bref, pour surveiller ce que je suis maintenant.
Je sais, lui fut-il répondu, d'autant qu'ils ne sont pas deux, mais cinq. Et sur ce, Eddie se sentit le théâtre d'une sensation encore plus étrange que toutes celles qu'il avait éprouvées jusqu'alors. Sans avoir eu l'intention de poser les yeux ailleurs que droit devant lui, il les sentit bouger. C'était Roland lui-même qui les dirigeait sur un type en débardeur pendu au téléphone, une femme installée sur un banc en train d'explorer les profondeurs de son sac à main, un jeune noir qui aurait pu être d'une beauté peu commune si la chirurgie lui avait un peu mieux rafistolé son bec de lièvre et qui pour l'heure examinait des t-shirts dans la boutique qu'Eddie venait de quitter. Bien qu'aucun ne présentât quoi que ce fût d'anormal dans son apparence, Eddie les reconnut tous pour ce qu'ils étaient, et ce fut une fois de plus comme dans ces images où le dessin caché, une fois découvert, refuse de retourner au néant. Il se sentit néanmoins les joues en feu parce qu'il avait fallu que l'autre lui montrât ce qu'il aurait dû voir du premier coup. Il n'avait pas été fichu d'en repérer plus de deux, alors que ces trois autres, quoiqu'un peu plus discrets, n'étaient quand même pas des supercracks. Les yeux du type au téléphone n'avaient pas ce regard vide que l'on fixe sur un interlocuteur invisible, mais regardaient pour de bon. Regardaient l'endroit où était Eddie. Cet endroit qui, comme par hasard, ne cessait de les attirer. La femme au sac, tout aussi incapable d'y trouver ce qu'elle cherchait que de renoncer, continuait d'en retourner le contenu. Quant à l'amateur de t-shirts, il devait avoir déjà eu le temps d'examiner une bonne douzaine de fois chaque modèle exposé. Et brusquement, Eddie se retrouva âgé de 5 ans et terrifié d'avoir à traverser la rue sans Henry pour lui tenir la main.
« N'y pense pas, » dit Roland. « Et ne t'inquiète pas non plus pour la nourriture. Il m'est arrivé de manger des insectes qui avaient encore assez de vie pour courir au fond de ma gorge. »
« Ouais, » répliqua Eddie. « Mais faut pas oublier qu'on est à New York. » Il ramassa Pepsi et hot dog pour aller s'installer tout au bout du comptoir, tournant le dos au vaste hall de l'aéroport. Son regard monta vers l'angle du plafond, à sa gauche, là où le surplombait un miroir convexe pareil à l'œil d'un hypertondu. Il pouvait y embrasser d'un seul coup d'œil les 5 membres de son escorte, et constater qu'aucun n'était assez près pour voir ce qu'il avait sur le comptoir devant lui. Avec satisfaction d'ailleurs, car il n'avait lui-même pas la moindre idée du sort attendant cette nature morte pop-art.
déposes l'astine sur les trucs à la viande. Puis tu prends le tout entre les mains. Aspirine ? Bon, t'appelles ça comme tu veux, prison. Eddie, mais tu fais comme je te dis. Eddie sortit de sa poche où il l'avait fourré, le sachet contenant la nacine, et manquant faire tomber le tube sur l'un des hot-dogs, prit soudain conscience que Roland, avec ses doigts en moins, risquait d'avoir des problèmes, ne serait-ce que pour l'ouvrir. Il s'en chargea donc, égrena trois pilules sur l'une des petites serviettes, pesa le pour et le contre, puis en rajouta trois de plus. Trois maintenant, trois plus tard, dit-il. S'il y a un plus tard. Ok, merci. Bon, comment on fait? Tu ramasses tout ça. Nouveau coup d'œil dans le miroir. Deux des types s'approchaient comme si de rien n'était du stink bar, n'appréciant peut-être pas qu'Eddie leur tourna le dos, flairant quelques tours de passe-passe, et voulant y regarder de plus près. S'il devait arriver quelque chose, mieux valait que ça se passe vite. Il plaça les mains autour de l'ensemble, sentit d'un côté la fraîcheur du Pepsi, de l'autre la chaleur des saucisses dans leur gaine de pain mou. En cet instant, il eut tout du type qui va apporter de quoi nourrir sa petite famille. Puis, ça se mit à fondre. Et il riva dessus des yeux qui s'écarquillaient, au point qu'il les crut près de tomber et de pendouiller au bout de leur pédoncule. Il voyait les hot-dogs à travers le pain, le Pepsi à travers le gobelet, et le sombre liquide encombré de glaçons s'incurvant en un volume qui finissait par ne plus être visible. Puis ce fut le formica rouge du comptoir qui transparut sous les hot-dogs et le mur blanc derrière le Pepsi. Ses mains se rapprochèrent, la résistance entre elles s'amenuisant, puis se rencontrèrent paume contre paume. La nourriture, les serviettes, le Pepsi, les six aspirines, tout ce qu'il avait tenu était parti. C'est Jésus avec son violon, pensa-t-il. Ses yeux bondirent sur le miroir. La porte avait disparu, tout comme Roland sortit de son esprit. Bon appétit, l'ami. Mais cet insolite personnage venu d'ailleurs qui disait s'appeler Roland était-il vraiment son ami? Allez savoir. Sûr, il lui avait sauvé la mise, mais ça ne voulait pas dire qu'il s'agit d'un boy scout. N'empêche qu'il l'aimait bien. Qu'il le craignait, mais qu'il l'aimait bien. Se demandait même si, avec le temps, il ne finirait pas par l'aimer tout court, comme il aimait Henry. Mange, étranger. Mange bien. Reste en vie. Et reviens. Il avait à côté de lui des serviettes tachées de moutarde laissées par un client. Il en fit une boule qu'il expédia dans la poubelle en sortant, les mâchoires en mouvement, comme s'il achevait une dernière bouchée de quelque chose. Puis s'acheminant vers les panneaux qui montraient la direction à prendre pour bagages et transports terrestres, il réussit même à produire un roux fort convenable en approchant du jeune noir. « Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?» lui demanda-t-il. « Je vous demande pardon. » fit le gars en se détournant de l'écran des départs qu'il faisait semblant d'étudier. « J'ai pensé que vous deviez sûrement chercher un t-shirt où on verrait écrit dessus « La charité, s'il vous plaît, je travaille pour le gouvernement. » lâcha Eddie avant de passer son chemin. Alors qu'il descendait les marches, il vit la farfouilleuse refermer précipitamment son sac et se lever. « Ma foi, ça va ressembler à la parade de Thanksgiving chez Mrs. » Journée passionnante à coup sûr, et il se disait qu'elle n'était pas finie. 5. Quand Roland vit les monstrueux crustacés ressurgir des vagues, le phénomène n'avait donc rien à voir avec la marée, c'était la tombée du jour qui les ramenait sur la plage. Il abandonna momentanément Eddie Dean pour aller déplacer son corps et lui épargner d'être découvert et dévoré par les créatures. Il s'était attendu à la douleur, y était préparé.
d'avoir si longtemps vécu avec elle en avait presque fait une vieille amie. Il fut toutefois sidéré de la rapidité avec laquelle sa fièvre avait empiré, ses forces diminuées. S'il n'avait pas été mourant précédemment, il ne pouvait désormais douter de l'être. Existait-il dans le monde du prisonnier un remède assez puissant pour prévenir l'issue fatale? Peut-être. Mais, à moins de mettre la main dessus dans les 6 ou 8 prochaines heures, la question perdrait sans doute toute importance. À l'allure où évoluait son mal, il n'y aurait bientôt plus ni médecine, ni magie, qu'elle provienne de quelque monde que ce soit pour restaurer sa santé. Impossible de marcher, il allait devoir ramper. Il s'y apprêtait quand son regard tomba sur les sacs de poudre du diable dans leur gang entortillé de bandes collantes. Les laisser ici, c'était les vouer à être éventrés par les omarstruosités. La brise marine disperserait la poudre aux 4 vents. Elle y serait à sa place, songea le pistolero. Mais il ne pouvait permettre qu'il en fût ainsi. Sinon, à un moment ou à un autre, incapable de montrer cette poudre, Eddie allait se retrouver dans les ennuis jusqu'au cou. Il était rarement possible de bluffer le genre d'homme auquel à son sens appartenait ce Balazar. Il allait demander à voir ce pourquoi il avait payé, et tant qu'il ne l'aurait pas vu, Eddie aurait assez d'armes pointées sur lui pour équiper une petite armée. Roland ramena vers lui l'enchevêtrement poisseux de ses possessions et se l'accrocha autour du cou. Puis il entreprit de mettre une bonne distance entre lui et les vagues. Il s'était traîné sur une 20aine de mètres, presque assez haut sur la plage pour s'estimer en sécurité. Quand il prit conscience, saisi d'horreur et cependant sensible à l'incommensurable comique de la chose, de laisser derrière lui le seuil entre les mondes. Comique, car pourquoi l'avait-il franchi? Tournant la tête, il vit alors que la porte n'était plus là où il croyait l'avoir laissée, mais à 3 pieds derrière lui. Pendant un long moment, il ne put que la fixer, comprendre ce qu'il aurait déjà dû savoir s'il n'y avait eu la fièvre et le feu roulant de questions auxquelles les inquisiteurs soumettaient Eddie. C'est « Où as-tu? Comment as-tu? Quand as-tu ?» qui se superposait au « Est-ce que chèque ?» À ce châle, usque chul, isque que chic du grouillement que les vagues continuaient de vomir au bas de la grève. Bon, maintenant, j'emmène cette porte partout avec moi, se dit-il, et Eddie aussi. Elle nous accompagne comme une malédiction dont on ne pourrait plus se débarrasser. Évidence incontestable, tout comme l'était cette autre fête, que si la porte se refermait, ce serait pour toujours. Quand cela se produira, il faudra qu'il soit de ce côté avec moi. Quel parangon de vertu nous avons en toi, pistolero ! L'homme en noir éclata de rire. Il semblait avoir définitivement élu domicile dans le crâne de Roland. Tu as tué l'enfant, sacrifice qui t'a permis de me rattraper et, je suppose, de faire apparaître cette porte entre les mondes. Voilà qu'à présent, tu t'apprêtes à un triple tirage condamnant les 3 compagnons qui te seront donnés à un sort dont tu ne voudrais pas vivre le restant de leurs jours dans un univers radicalement autre où la mort sera susceptible de les prendre avec autant d'aisance qu'elle s'empare d'animaux, de zoos remis en liberté dans une nature hostile. La tour, se dit avec sauvagerie le pistolero, une fois que j'aurai atteint la tour et fait ce que je suis censé y faire, que j'y aurai accompli cet acte fondamental, quel qu'il soit, de restauration ou de rédemption pour lequel j'ai été conçu, alors peut-être... Mais le hurlement de rire de l'homme en noir, de cet homme qui était mort mais n'en continuait pas moins de vivre, à l'instar de la conscience blessée du pistolero, n'allait pas lui permettre de s'en tirer à si bon compte.
Pas plus d'ailleurs qu'envisager sa propre trahison ne pouvait le détourner de sa trajectoire. Il parvint à se traîner sur une autre dizaine de mètres, jeta de nouveau un coup d'œil derrière lui et constata que le plus gros des monstres n'irait pas s'aventurer plus d'une vingtaine de pieds au-dessus de la laisse des hautes eaux. Sa reptation lui avait déjà fait couvrir 3 fois cette distance.
« Bon, c'est bien. » Rien, mais bien !» répliqua joyeuse la voix de l'homme en noir. « Et tu le sais !»«
Ta gueule !» pensa le pistolero. Et, miracle, l'homme en noir la ferma. Roland remisa les sacs de poudre du diable dans l'interstice entre deux pierres et dissimula le tout sous quelques poignées d'herbe. Puis il s'accorda un bref répit. Le crâne traversé de sourdes palpitations, la peau tour à tour brûlante et glaciale, tandis qu'il se laissait à nouveau rouler jusque par-delà le seuil, dans cet autre monde, dans cet autre corps, abandonnant encore pour un temps derrière lui l'infection à son évolution meurtrière.